Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux, effectivement, de... En fait, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai déjà fait une conférence devant l'Assemblée générale d'Exit. C'était à Genève où j'avais eu la surprise et l'étonnement de voir dans l'assistance beaucoup de mes anciens profs du collège. Mais ils avaient pris 20 ans de plus, et moi aussi d'ailleurs, mais je m'en rends moins compte, comme c'est toujours le cas. Oui. Maintenant, j'ai votre âge, donc ça va beaucoup mieux de ce point de vue-là. Et effectivement, parce que je me suis, comme l'a dit votre président, je me suis occupé des questions de bioéthique depuis les années 90, et j'avais publié un bouquin en 95 sur la valeur de la vie humaine et l'intégrité de la personne, où j'avais un chapitre consacré à l'euthanasie, qui m'avait valu une interview dans la revue qui s'appelle La Recherche en France, et puis ensuite un courrier des lecteurs français assez courroucé, et notamment une personne avait demandé « Mais depuis quand y a-t-il des philosophes en Suisse ?» Comme quoi, vous voyez, des fois on dit « Nul n'est prophète en son pays », mais là j'étais plutôt pas très prophète à l'extérieur. Je me suis bien vengé puisque maintenant je suis membre du comité d'éthique de l'INSERM à Paris, et donc, où on parle quand même de recherche plutôt que de fin de vie. Mais voilà, c'était des petites anecdotes que vous m'excuserez de vous avoir raconté. Alors, le titre, mon titre, c'est, il est un peu grandiloquent, mais vous allez voir, je vais le préciser, c'est « Comment réussir sa vie quand on est mortel ?» L'idée, bien sûr, c'est que quand on parle de réussir sa vie, la mort est quand même un phénomène qui joue un rôle important. Et déjà, dans l'Antiquité, on y avait beaucoup pensé, notamment un auteur, vous connaissez de nom en tout cas, qui s'appelle Épicure, qui disait, dans le fond, que réussir sa vie et réussir sa mort, c'est la même chose. Voilà ce qu'il disait. « Celui qui incite d'un côté le jeune à bien vivre, de l'autre le vieillard à bien mourir, est un niais. Non tant parce que la vie a de l'agrément, mais surtout parce que bien vivre et bien mourir constituent un seul et même exercice. Plus stupide encore, celui qui dit beau d'être pas né, ou sitôt né, de franchir les portes de l'Hadès. » L'Hadès, donc, c'est la mort. Donc, comme vous voyez, la réflexion sur le sens de la vie, sur la place de la mort dans notre vie, ce n'est pas nouveau. C'est là depuis que les êtres humains existent. Et Épicure avait donné sa réponse, qui est toujours la réponse que certains d'entre nous donnons, en disant que le sage ne craint pas la non-vie, car la vie ne l'accable pas, et il ne pense pas que la non-vie soit un mal. Et tout comme il ne choisit pas la nourriture qui est absolument la plus copieuse, mais la plus agréable, de même aussi, il cueille les fruits du temps, non pas le plus long, mais le plus agréable. C'est une pensée, je crois, qu'on pourrait des fois rappeler à ceux qui se gaussent, pas tout à fait à tort, qu'on a gagné quand même 30 ans de longévité pendant le XXe siècle, ce que je trouve est une très bonne chose entre nous, mais la question de la qualité de vie, comme vous voyez, est sous-jacente déjà à ce texte-là et doit être prise en compte. Alors, je vais vous entretenir de trois points. Le premier, c'est... puisque je veux vous parler de philosophie, les philosophes, l'histoire de la philosophie est marquée par un événement fondamental qui est la mort de Socrate. Socrate condamné à mort pour avoir voulu renverser la religion et corrompre la jeunesse, c'est ce qu'on l'accusait, a mené une première réflexion sur la mort. Puis la condition humaine, on vient de parler de quelqu'un qui proposait que, d'une certaine manière, on rappelle à nos compatriotes qu'on est des êtres mortels. Effectivement, c'est une bonne chose. Et enfin, des conceptions de la vie bonne, vous allez voir de quoi il retourne, mais c'est assez simple. L'idée, c'est que la mort, ce n'est pas un événement qui tombe comme ça tout seul, même si ça peut être un accident, mais ça prend sens dans le sens que l'on donne à notre vie. C'est exactement ce qu'Épicure nous racontait. Voilà, donc le premier point, c'est un événement fondateur, la mort de Socrate. Voilà, elle est souvent représentée. Vous savez que Socrate a été condamné à mort. On exécutait les condamnés chez les Grecs en leur donnant un poison à boire, c'était de la grande ciguë. Et il est mort au milieu d'ailleurs de ses disciples, parce que les prisons grecques n'étaient quand même pas comparables à nos prisons actuelles, on pouvait mourir au milieu de ses amis. Et il doit justifier en même temps, sa position, et en même temps dire pourquoi lui, dans le fond, ça ne lui fait pas peur de mourir. Et voilà ce qu'il dit. De deux choses l'une, en parlant de la mort, ou bien celui qui est mort est réduit au néant et n'a plus aucune conscience de rien, ou bien conformément à ce qui se dit, la mort est un changement, une transmigration de l'âme du lieu où nous sommes dans un autre lieu. Si la mort est l'extinction de tout sentiment et ressemble à un de ces sommeils où l'on ne voit rien, même en songe, c'est un merveilleux gain que de mourir. D'un autre côté, si la mort est comme un passage d'ici-bas dans un autre lieu, Et s'il est vrai, comme on le dit, que tous les morts y sont réunis, peut-on imaginer un plus grand bien ? Si on fait société avec Orphée, Musée, Hésiode et Homère, à quel prix n'achèteriez-vous pas ce bonheur ? On peut varier la liste des personnes célèbres qu'on a envie de côtoyer après la mort, mais voilà un petit peu enfin, ce qu'il dit donc peu avant de mourir. Et ce mouvement fondateur a immédiatement eu beaucoup un grand écho parce que, dans le fond, Socrate, il meurt, mais c'est lui qui avale un poison, donc est-ce qu'il se suicide ou pas ? À part ça, il aurait pu s'évader, il a refusé. Il s'est fait condamner à mort, mais il aurait pu très bien l'éviter en plaidant un peu différemment sans choquer les juges. Donc la question de savoir de quelle mesure Socrate est l'acteur de sa propre mort a rapidement été posée. Et la discussion sur le suicide, bien sûr, a été une constante de notre civilisation, surtout évidemment sous l'influence plus tardive du christianisme qui l'a condamné fortement. Mais d'une manière générale, la réflexion sur la condition humaine nous accompagne, et là j'ai juste mentionné le philosophe français Jean-Paul Sartre, qui dit que dans la condition de l'être humain implique quatre grandes limites, ou quatre grands sujets. D'abord, il est nécessaire qu'on soit dans le monde, c'est-à-dire qu'on est soumis aux lois de la physique et de la biologie. Nécessité d'y être au travail, la nourriture ne tombe pas toute cuite dans la bouche, mais il faut produire notre nourriture. On y est au milieu des autres, on est des êtres hypersociaux, comme on dit de nos jours, on vit avec nos semblables. Et enfin, la nécessité d'être mortel, qui est, dans le fond, l'ultime borne à laquelle nous nous heurtons. Alors, il faut d'abord, comme vous le savez bien, éviter de confondre deux choses, parce que la mort est souvent sujet ou cause de crainte, c'est de séparer la mort de la peur de la mort et la peur de souffrir. Déjà, le philosophe grec Diogène Laërce raconte cette anecdote à propos d'Antisthène, qui est un philosophe grec aussi. Comme Antisthène lui disait donc à Diogène « Qui pourrait me délivrer de mes maux ?» Diogène lui montra la petite épée et dit « Ceci ». Mais Antisthène reprit « J'ai dit de mes maux, pas de la vie ». Effectivement, comme on le sait bien, ce n'est pas la même chose de craindre la mort et de craindre la souffrance. Alors, quand on se demande ce qu'on craint autour de la mort, eh bien, il y a évidemment la souffrance, il y a aussi l'agonie, qui comprend la solitude, le sentiment d'abandon, la peur d'étouffer, et puis il y a simplement le fait d'être mort, le néant. Le néant est une source d'épouvante, même, chez certains, ça se remarque dans la littérature, et c'est l'idée, évidemment, ça implique, c'est que si la mort fait peur, c'est qu'elle est perçue comme un mal, et donc que la vie est un bien. Mais dès qu'on dit ça, on a l'impression que Platon, dont je vous ai cité auparavant, par les mots de Socrate, a tort. Socrate a l'air de nous dire, mais dans le fond, c'est très bien la mort, parce qu'on sera mieux après qu'avant. Voilà. On a ce discours chez les martyrs chrétiens aussi, parfois. Hein. Voilà. Mais si on craint la mort, qu'est-ce qu'on craint ? On craint toujours un mal, on craint un danger. Et Euripide, c'est pas un philosophe cette fois, c'est un auteur grec, avait mis en scène certains personnages, dont un qui faisait cette remarque-là. « Ce ne sont que paroles en l'air, je le vois bien quand les vieillards appellent de leur vœu la mort, en récriminant contre leur vieillesse et leur long bail avec la vie. Dès qu'approche la mort, aucun ne veut mourir. La vieillesse a cessé de leur être pesante. » Je crois que c'est une observation qu'on peut faire même à propos de soi-même, hein, d'une certaine manière, et qui est vraiment une constante de la condition humaine. Mais la peur de la mort a été effectivement, comme je l'ai dit, souvent soulignée dans la littérature. D'abord, l'écrivain suisse Robert Walser, qui écrit ceci, « La mort se tient derrière moi, regarde, de même que tu reçois maintenant mon haleine, de même elle me souffle son atroce haleine froide au visage, et ce souffle me fait sombrer. Cela m'arrache la poitrine. » Tolstoï, dans La mort d'Ivan Ilitch, Ivan Ilitch s'exclame « Je ne serai plus, mais qui aura-t-il donc ? Rien du tout. Et où serai-je quand je ne serai plus ? Est-ce la mort ? Oh, je ne veux pas. » Ce qui a amené à faire certains commentaires de philosophe, Philippa Foot, disant ceci, que, commenté ainsi, « Le fait est que, quel que soit le point de vue sur les biens et les maux que la vie peut contenir, il semble qu'une vie avec plus de mal que de bien pourrait encore être elle-même un bien. » La mort, dans le fond, la vie semble avoir, en tout cas pour certains, une valeur pour elle-même, quelle que soit la quantité de biens et de maux dont elle est porteuse. Et Francis Cam, autre philosophe anglaise, dit la même chose. Les gens peuvent vouloir rester vivants seulement parce que l'alternative est un néant posthume et qu'une vie même malheureuse reste préférable au mal du néant. Donc on se heurte à une limite, à un mal, la mort, comment la gérer ? Montaigne s'y était déjà intéressé et nous dit ceci. Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas avant sans fièvre ? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement ? Les jeunes et les vieux laissent la vie de même condition. Nul n'en sort autrement que comme si tout présentement il y entrait. Enfin, bon, il est un petit peu dur avec les gens qui ont peur de la mort, hein, Montaigne, mais on n'est pas étonné qu'on hésite à s'inscrire à Exit aussi quand on a lu Montaigne, parce qu'il faut y penser. Et on n'a pas forcément envie d'y penser tout le temps, régulièrement, ou quand on est jeune. Hein. Bon, alors comment se dépatouiller, oserais-je dire, avec tout cela ? Eh bien, les philosophes prétendent apporter leur aide et essayent de désamorcer la peur de la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir, dirait Montaigne. Platon, Cicéron disaient déjà, étudier la philosophie ne consiste en rien d'autre que de se préparer à mourir. Alors voilà, vous avez des figures de sages. Bon, quelqu'un m'a fait remarquer, mais pourquoi c'est que des hommes barbus ? C'est une bonne question. Ben, on est en Grèce pour la plupart. En Grèce, les hommes portaient la barbe et comme vous le savez, la Grèce est un des régimes les plus machistes qui soient d'exister dans l'Antiquité. Les Romains ne valaient pas beaucoup mieux d'ailleurs, mais un petit peu peut-être. Hein. Alors, ils ont donné toutes sortes d'arguments pour nous dire que, dans le fond, il n'y avait aucune raison de craindre la mort. Le premier argument est un argument logique qu'on retrouve chez Sénèque et chez Épicure. Bon, Sénèque est un Romain, mais qui a aussi été condamné à mort, d'ailleurs, par Néron. Voilà ce qu'il disait. « Si vous plaignez les morts, plaignez aussi ceux qui ne sont pas nés. La mort n'est ni un bien ni un mal. » Car pour être un bien ou un mal, il faut qu'une chose soit. Autrement dit, la mort n'existe pas. Épicure va nous dire pourquoi. Et donc, il n'y a aucune raison de le craindre puisqu'elle n'existe pas. Voilà ce que disait Épicure. Celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous. Puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc, la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Voilà, avec ça, je pourrais m'arrêter, puisqu'il n'y a aucune raison, dans le fond, de continuer à s'inquiéter. Et Pétrarque, dans la même veine, continue en disant « c'est complètement irrationnel et vain ». « Je ne puis souffrir, dit-il, de voir quelqu'un se lamenter sur son sort, alors que c'est celui de toute son espèce. Pour ne pas mourir, il fallait n'être pas mortel. Et si ton chagrin est d'être mortel, tu n'as plus de raison de pleurer, puisque tu cesses maintenant de l'être malgré toi. Une fois que vous êtes mort, vous n'êtes plus mortel. Donc voilà, vous êtes content. » Peut-on dire. Voilà donc toute une série d'arguments logiques qui, je ne sais pas si mes confrères philosophes sont tous convaincus par eux, mais s'il n'y avait que ça, peut-être que ça ne suffirait pas tout à fait. Donc il y a quand même un argument, d'autres arguments, dont un qui est plus existentiel et qui vous parlera peut-être plus, qui nous dit qu'effectivement la mort est réellement un mal, car elle comporte un facteur d'insulte, la mort implique la destruction et le déclin d'une personne, un facteur de privation, parce que la mort fait qu'un être a eu moins de biens de la vie qu'il aurait pu en avoir autrement. S'il avait continué à vivre, il aurait eu plus de biens. Et enfin, un facteur d'extinction, la mort implique qu'une chose qui existait auparavant disparaisse définitivement. C'est la peur du néant. Et Francis Cam nous propose, c'est un peu long, je suis désolé, mais il nous propose une sorte de solution en disant que celui qui veut être en paix avec son destin minimisera son inquiétude concernant le facteur de privation si les biens les plus importants de sa vie sont tels qu'en avoir plus et plus longtemps n'augmente pas la somme totale de ce qu'il a eu. Et effectivement, cela paraît vrai de certains des biens les plus importants, comme avoir un caractère vertueux et connaître des vérités importantes qui, une fois qu'on les possède, sont complets par eux-mêmes. Plus on peut apprécier les réussites de sa vie, moins on dépend de la vie future. Ensuite, si l'on n'est pas trop sensible aux affronts personnels et qu'on comprend que la vulnérabilité n'a pas d'effet sur notre mérite intrinsèque, le facteur d'insulte sera moins important. Enfin, si on apprécie les biens de la vie plus qu'on ne languit après l'assurance de leur permanence ou de la nôtre, on ignorera la suggestion inspirée par le facteur d'extinction qu'on devrait éviter les biens de la vie afin d'éluder la faim et la nôtre. Comme vous voyez, tout ceci renvoie en fait à la question du sens de la vie, qu'est-ce qui donne un sens à notre vie et qui donc peut faire que notre vie est en elle-même complète, d'une certaine manière, et que la mort, si effectivement il y met fin, n'est pas quelque chose qui nous privera de biens fondamentaux et définitifs. Ça, c'est voilà l'argument, si vous voulez, de l'argument existentiel, dire, lié au sens de la vie et à la valeur de notre existence. Il y a un troisième argument dont je vais vous entretenir rapidement, c'est l'argument de la sagesse, qui implique un certain détachement vis-à-vis de la vie, et c'est ce que disait Sénèque notamment. Réfléchis journellement au moyen d'abandonner paisiblement cette vie à laquelle bien des hommes s'attachent et se retiennent, comme ceux qu'un torrent emporte s'accrochent aux ronces et aux rocailles. L'humanité en général flotte misérablement entre la crainte de la mort et les afflictions de la vie. Ils répugnent à vivre et ne savent pas mourir. Rends-toi donc la vie heureuse en abdiquant à son égard tout souci. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se préoccuper de sa mort en se centrant sur notre vie. Et c'est un peu ce qu'on lit aussi dans ce manuel de sagesse du monde ordinaire de Joseph Bochensky. L'aspect que vous allez voir qui est un petit peu particulier, c'est que, comme vous voyez, c'est un dominicain, donc c'est un moine. Mais voilà ce qu'il nous dit. Article 1, agis de sorte que tu puisses vivre longtemps heureux. Article 2, protège avant tout ta vie et ta santé. Article 2.1, ne sois pas imbécile, ne te fais pas tuer. Et 2.1, quand la vie te semble être certainement et irrémédiablement insupportable, suicide-toi. Il n'a aucune chance de devenir Saint-Joseph. Hein, voilà. C'était un de mes profs à l'Université de Fribourg, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui est mort à 95 ans, d'une mort naturelle, voilà, mais voilà qu'était son manuel de sagesse du monde ordinaire. Et c'est effectivement quelque chose que l'on voit en filigrane chez beaucoup de philosophes, c'est l'idée qu'il y a des moments peut-être où la vie devient insupportable et il faut y mettre fin. Mais pendant longtemps, ils n'ont pas osé le dire. Et un bon exemple est celui du philosophe anglais David Hume du XVIIIe siècle, qui, dans un bouquin qui s'appelle « Sur le suicide », qu'il n'a pas publié de son vivant, dit ceci, « Que le suicide puisse être souvent conforme à nos intérêts et à nos devoirs envers nous-mêmes, personne ne peut le mettre en doute. S'il estime que l'âge, la maladie ou les malheurs peuvent faire de la vie un fardeau et la rendre pire même que l'annihilation. Je pense que personne n'a jamais abandonné la vie tant qu'elle gardait de la valeur, tellement grande est notre horreur naturelle de la mort. » Voilà donc ce qu'un philosophe des Lumières pensait au XVIIIe siècle, et c'est basé sur un argument qu'on pourrait appeler l'argument effectivement de la qualité de vie. Imaginez que vous ayez à choisir entre toute une série de vies, ici j'en ai mis 7, qui ont une qualité et une longueur différentes. La première vie, vous vivez 100 ans, donc vous vivez à 100% de qualité de vie, mais une vingtaine d'années. La deuxième, vous vivez un peu moins bien, mais plus longtemps. La troisième, encore un peu moins bien et plus longtemps. Et à un moment, vous pourrez vivre quasiment éternellement, mais avec une qualité de vie telle que la vie vaut quasiment plus la peine d'être vécue. Et l'idée qu'il appelait l'odieuse conclusion, c'est Derek Parfit, un philosophe anglais, c'est de dire qu'il arrive un moment où l'augmentation de la durée ne compense pas la baisse de qualité. Et que d'une certaine manière, on peut tous se mettre d'accord là-dessus que à un moment, ça ne vaut plus la peine. C'est exactement ce que disait David Hume. Et cette notion de qualité de vie joue un rôle effectivement important. Hein. À quel moment pourrait-on dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue à cause de sa basse qualité? Mais évidemment, il faut un critère de qualité de vie. Alors, il y a plusieurs critères de qualité de vie. En gros, il y en a 3 qui ont été proposés dans notre histoire. Il y a d'abord une théorie qui dit que, dans le fond, la qualité de vie, c'est simplement le plaisir, ce qu'on appelle les théories hédonistes. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit de vivre une vie qui contient le plus de plaisir possible, et quand c'est plus possible, la vie perd son sens. Il y a des théories qui sont un peu différentes, c'est les théories de la satisfaction des désirs. L'idée, c'est tant que nos désirs continuent, peuvent encore être satisfaits, quels que soient nos désirs, hein, on ne cherche pas à avoir des désirs particuliers, eh bien, notre vie a encore un sens. Et la troisième théorie, qui est ce qu'on appelle la théorie de la liste objective, c'est l'idée que, dans le fond, il ne suffit pas d'avoir du plaisir, même si c'est important, il ne suffit pas que nos désirs soient satisfaits, même si c'est important, il faut encore faire des choses qui ont un sens, réaliser dans sa vie quelque chose qui nous tient à cœur, qui donne un sens à notre vie. Et l'idée, c'est que quand ceci n'est plus possible, eh bien, la qualité de vie est quelque chose qui est devenu trop basse d'une certaine manière. Alors ça, c'est l'argument donc, de la qualité de vie, et donc on peut dire l'argument qui est lié au bien ou à la bienfaisance, pour prendre un principe de la bioéthique. Mais il y a un autre argument qui va dans le même sens, qui est un argument lié à l'autonomie. Parce que si on estime important de faire du bien aux autres et à soi-même, on estime aussi important, voire plus important, de respecter la liberté des individus, quoi qu'ils décident. Et c'est John Stuart Mill, un philosophe anglais, qui avait proposé ce principe, que la liberté de l'individu doit être contenue dans cette limite, il ne doit pas nuire à autrui. Et si on applique ce principe, eh bien, on ne peut pas s'opposer à un acte comme le suicide, qui est une cause de tort, c'est-à-dire de dommages injustes à personne, même s'il peut être source d'affliction pour les proches. Et ça, c'est une vision donc, de la vie qui est basée sur le respect de l'autonomie. L'autonomie est un principe énormément utilisé en bioéthique, mais on peut donner quelques définitions, mais l'idée est assez simple à comprendre. Il ne s'agit évidemment pas de l'autonomie physique, hein, mais il s'agit de l'autonomie, c'est-à-dire de la capacité à pouvoir diriger sa propre vie. En fait, au sens étymologique, autonomie, ça signifie se donner des lois à soi-même, suivre ses propres lois, et ne pas suivre les lois d'autrui. Alors, j'ai mis ici quelques définitions tirées de manuels de bioéthique, en disant que, par exemple, pour Beauchamp et Childress, une personne autonome agit en accord avec un plan librement choisi et éclairé, tout comme un gouvernement véritablement indépendant agit pour contrôler son territoire et sa politique. Définition d'un juriste ensuite, chaque personne possède une sorte de souveraineté sur sa propre vie, et cette souveraineté exige qu'il soit accordé à la personne une zone d'activité protégée, dans laquelle elle sera libre de tout empiétement de la part des autres. Donc, on a une vie privée sur laquelle autrui n'a pas le droit d'empiéter. Et l'ancien directeur du NIH aux États-Unis, un des attributs fondamentaux d'une personne est la capacité à l'autodétermination ou à l'autonomie, c'est-à-dire à sa capacité à élaborer une conception de la vie bonne, de vivre en conséquence et de la réviser. Dans une telle conception, l'idée, dans le fond, c'est simplement de dire que la personne qui est en charge de moi-même, c'est moi-même, et autrui n'a pas le droit d'y interférer tant que je ne lui cause aucun tort. C'est basé sur la conception libérale de l'individu. Alors, par libéral, il faut faire attention, parce que maintenant, on parle toujours de néolibéralisme en dénonçant toutes sortes de capitalisme éhonté. Il ne s'agit pas du tout de ça. La conception libérale de l'individu, c'est la conception qui repose sur le respect des droits humains, tout simplement. Elle remonte au XVIIe siècle chez un philosophe qui s'appelle John Locke, qui disait ceci: « Chacun a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. » Et deux auteurs contemporains, Tris Engelhardt, des individus libres doivent pouvoir mourir librement, selon leur choix, même s'ils choisissent de le faire à un moment qui n'est pas idéal. Et Dan Brock, bioéthicien américain, même les choix irrationnels d'un patient autonome doivent être respectés si on ne peut persuader le patient d'en changer. L'idée, c'est que si quelqu'un prend une décision, vous pouvez ne pas être d'accord avec la décision qu'il a prise, ça ne vous donne pas autorité pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Et ceci est valable non seulement pour nos proches, mais aussi pour l'État. Dans la conception libérale de l'individu, l'individu est autonome et l'autonomie est garantie par une ceinture de droit-liberté, et ni autrui, ni l'État, ni les médecins n'ont le droit d'y empiéter, à moins que la personne leur ait donné l'autorisation. Vous voyez que bon, c'est une conception qui est assez répandue en Suisse d'ailleurs, même si on ne s'en rend pas toujours compte, mais qui n'est pas du tout en France par exemple. Bien, j'aimerais terminer peut-être rapidement, puisque je vous ai parlé des différents arguments des philosophes, j'ai parlé de la bienfaisance, de la qualité de vie, enfin un peu rapidement, mais bon, c'est une introduction, et de l'autonomie. Et comme je vous l'ai dit, tout ceci repose en fond sur la conception qu'on se fait d'une vie bonne. C'est quoi mener une vie bonne ? Alors, déjà, une première chose, si on pense que l'autonomie est importante, on dira que ce qui fait qu'une vie est bonne, c'est la vie que j'ai choisie. C'est le premier, c'est la première condition. Mais il y a peut-être une ou deux autres, puisqu'on a quand même dit que, aussi que, dans le fond, pour que notre vie ait vraiment un sens, c'est bien de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Il faut espérer pouvoir les faire, bien entendu, mais dans nos pays, c'est quelque chose de, généralement qui nous est accessible, de quelque chose qui donne un sens à notre vie. Et d'après le psychologue Paul Tagard, pour que notre vie ait un sens, il faut qu'on ait des objectifs que l'on valorise émotionnellement, que certains de nos objectifs ont été atteints jusqu'à un certain point, qu'on a encore des objectifs qui n'ont pas encore été réalisés, mais qu'on a des chances raisonnables d'atteindre, que ces objectifs soient cohérents entre eux et qu'ils aient une valeur objective, c'est-à-dire qu'on puisse, aux yeux d'autrui, justifier qu'ils ont une valeur. Ce n'est pas simplement un caprice, ce n'est pas seulement un désir passager, c'est quelque chose qui peut être justifié au droit d'autrui. Ils sont extrêmement multiples, hein. Fonder une famille, avoir un métier dans lequel on rend service aux autres qui nous fait participer à la vie sociale, etc. etc. Il y en a évidemment énormément. Il faut qu'on puisse encore le faire. Quand on ne peut plus le faire, évidemment, ça devient un petit peu compliqué. J'ai oublié de... Voilà ce que c'est que de suivre sur deux écrans à la fois. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que j'avais prévu avant. Alors, c'est intéressant. Là, c'est une petite parenthèse. J'arrive à la fin, hein. Dans l'Antiquité, j'ai beaucoup parlé de philosophes antiques parce qu'ils y avaient beaucoup réfléchi à la question du sens de la vie, plus sans doute que les modernes, peut-être les contemporains, ça change un peu maintenant. Il y a l'idée de mener une vie vertueuse. Vous avez peut-être entendu citer ça par Francis Cam. Il faut faire attention au terme vertu. Hein. Quand on parle de vertu, ça paraît toujours un petit peu bizarre, lié à la sexualité. Ça n'a rien à voir, évidemment, étymologiquement. Les vertus en grec, ça veut dire excellence. Donc, cultiver les vertus, ça veut dire cultiver des excellences. Et alors, la générosité est une vertu, le courage est une vertu. Ce qui est intéressant et un peu anecdotique, c'est que la question du courage et du suicide ont souvent été liées. Mais on se rend compte que ça a été lié de façon relativement différente. Hein. Par exemple, Aristote dit que l'homme magnanime, ça signifie, attention, ce n'est pas le sens actuel, qui a une grande âme, magna anima, tout simplement. Mais il affronte le danger pour des motifs importants, et quand il s'expose ainsi, il n'épargne pas sa propre vie dans l'idée qu'on ne doit pas vouloir conserver la vie à tout prix. Donc le courage ou la grandeur d'âme implique qu'on ne s'accroche pas à sa vie, mais, dit-il en même temps, aucun de ceux qui fuient la souffrance, comme plusieurs le font, n'est courageux, ainsi que le dit Agathon, d'entre les mortels, les médiocres, vaincus par la souffrance, désirent mourir. Voilà, les raisons de mourir ne sont pas toujours les mêmes, et Diogène Laërce rapporte cette anecdote. Carnéade, un philosophe grec, semble s'être montré assez lâche devant la mort, puisqu'il répétait constamment « La nature qui m'a fait me défera ». Bien, je vais juste terminer par une diapositive qui nous rappelle à notre condition humaine, tout cependant à une fin, et qu'avant de mourir, évidemment, on se sent vieux, et que la vieillesse peut être une charge, parce que, on se sent, c'est des études menées par Nielsen et Hauskeller qui l'ont mise en lumière, on se sent impuissant, une charge pour autrui, on ne se reconnaît plus, on est fatigué, on est indifférent par rapport à nos anciens projets, on se sent séparé des autres à cause de notre manière de voir les choses et de la mort de nos proches contemporains. Ce n'est pas toujours joyeux, on peut servir de modèle à un Ferdinand Hodler, ça c'est quand même assez valorisant. Mais voilà, c'est inévitable et évidemment, c'est à ce moment-là que la question du sens de la vie et du sens de la mort se pose. Voilà, je vous ai amené quelques éléments, j'espère avoir pu retenir votre attention. Je vous remercie.